des aviateurs français disparus mystérieusement. Aurait-il traversé l'Atlantique avant Lindbergh? La bonne question de Yann Morel en France. Balado, Radio-Canada International, rcinet.ca.
Ils ont disparu le 9 mai 1927. Ils se sont perdus, puisqu'on n'a pas eu de contact, je crois, une fois passé l'Irlande. Et donc, depuis quelques années, il y a une association qui s'occupe d'essayer de faire des recherches, tout au moins, pour localiser cet appareil. Donc, on a eu, bien sûr, des on-dit, comme on dit en France, hein, pour savoir si on avait retrouvé cet avion au fond de la mer, etc., etc. On avait dit qu'on avait retrouvé même des inscriptions, enfin un moteur qui aurait pu correspondre à ce type d'avion qui est possédé. Et moi j'ai vu une émission dernièrement, puisqu'on nous a parlé effectivement que ces aviateurs auraient pu disparaître au Canada, donc plus précisément du côté de Terre-Neuve. Alors c'est pour ça que je vous ai un petit peu contacté pour en savoir un peu plus.
Moi je ne peux pas vous apporter de conclusion satisfaisante, ça reste un mystère.
L'oiseau blanc, bourré d'essence, décolle avec peine ses 5 tonnes, file au ras des arbres, s'engage au-dessus de l'océan à Étretat.
Ningesser et Colly s'envolent, la France retient son souffle. 4 hydravions les accompagnent, un opérateur les filme, sûr qu'ils gagneront la guerre des airs et réussiront la traversée qu'un certain Lindbergh doit bientôt tenter. Quand on les quitte au-dessus d'Étretat, on se dit qu'avec 40 heures d'autonomie, ils ont leur chance.
Mon grand-père a toujours dit qu'il était sûr d'atteindre Terre-Neuve, mais qu'après, il avait un geste, on verra.
Dans tous les livres d'histoire, on parlerait d'eux. À la place Lindbergh, puisque Lindbergh, oui, 2 semaines après leur disparition, a effectué la traversée, mais cette fois dans le sens New York-Paris. Est-ce qu'il y a déjà eu un film fait au sujet de cette mésaventure?
Non, à ma connaissance, il n'y a pas de film qui a été fait. Il y a juste des reportages, moi, que j'ai vus.
8 mai 1927, Charles Ningesser et François Colly veulent être les premiers à relier Paris à New York sans escale. Leur avion s'appelle Oiseau Blanc. On ne reverra plus Ningesser et Colly.
C'était 2 aviateurs très aguerris. Ce n'étaient pas des amateurs qui ont tenté cette traversée.
Non. Alors, Ningesser était... En fait, Ningesser, c'est un as de la Première Guerre mondiale, à la bataille de Verdun, entre autres. Il avait abattu donc 21 avions allemands. Donc c'était un des as de la Première Guerre mondiale, donc c'était, en plus on pouvait dire qu'ils n'avaient pas de parachute à l'époque, donc ils allaient au combat, c'était vraiment très très courageux de leur part, quoi. Et son collègue Colly était effectivement aussi un aviateur qui était, ils étaient très aguerris tous les deux, hein. C'était pas des débutants, quoi.
Les rapports météorologiques de l'époque font état d'un temps favorable aux deux aviateurs. Quelque temps après le passage du 40e méridien ouest au beau milieu de l'Atlantique, Ningesser et Colly atteignent le point de non-retour, à partir duquel ils ne pourront plus faire demi-tour, faute de carburant. Et c'est là que les problèmes commencent. D'après les services météorologiques américains, une dépression à l'origine prévue bien plus à l'est leur barre la route, ce qui les aurait obligés à contourner la dépression par le nord, allongeant leur périple de plusieurs heures.
Une des histoires les plus étranges autour de cette disparition-là, ce qu'on a pensé au tout départ, c'est que l'avion aurait été descendu du ciel par des gens qui faisaient le commerce illicite de l'alcool. Au niveau de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'était un dépôt. Enfin, il y avait beaucoup des gens d'Al Capone qui se servaient de cette île, de cette,
voilà, ouais,
ces territoires français, pour acheminer de l'alcool du Canada vers les États-Unis, où il était interdit de consommer ou de vendre de l'alcool. Alors, on a pensé que peut-être l'avion avait tourné autour d'une de ces embarcations d'Al Capone et que les bandits l'auraient descendu. Pourquoi est-ce qu'ils auraient tourné autour d'un navire plus qu'un autre? Ça, c'est une... je ne sais pas. Mais ça fait partie, disons, ça serait une bonne scène dans notre film. Ça, c'est sûr.
Bien sûr, oui. D'après ce que le film que j'avais vu, enfin, ces extraits de films de recherche, ils ont l'air quand même plus, maintenant, on a l'air de peaufiner davantage ces recherches vers, justement, vers Terre-Neuve et vers le Canada, hein, apparemment. Hein.
Oui.
J'en sais pas plus. Hein.
L'hypothèse la plus crédible au niveau d'une disparition au-dessus du territoire canadien tourne autour des îles de Saint-Pierre-et-Miquelon, véritablement. Remarquez que tout de même, il y a eu des rumeurs très sérieuses à l'effet que l'avion ait pu s'écraser le long, quelque part, du grand fleuve Saint-Laurent. En mai 2009, il y a eu une nouvelle campagne de recherche qui a été lancée à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelques kilomètres donc au sud de Terre-Neuve, sur les bases d'un rapport, d'un témoignage, si vous voulez, d'un pêcheur Saint-Pierrais, Marie-Pierre Lechevalier, qui dit essentiellement que le matin du 9 mai, Lechevalier était en train de pêcher la morue quelques kilomètres au sud-est de Saint-Pierre-et-Miquelon lorsqu'il entend s'approcher le bruit d'un avion moteur caché dans la brume, un bruit qui va faire hurler son chien à la mort, sans que Lechevalier puisse le calmer véritablement. Et c'est sur les bases de ce témoignage-là, très émotif, que l'on a entrepris des recherches importantes dans ce secteur-là. En 2009, dans la région de la baie Fulmar, à l'aide d'un sonar, on a tenté de retrouver l'écho de la structure de l'oiseau blanc, un petit avion quand même, en vérité. Ça s'est poursuivi en 2010 pendant presque un mois, toujours à la période de l'été, lorsque les glaces, les icebergs sont moins nombreux dans la région, sans que l'oiseau blanc ne soit retrouvé.
Oui, je crois que c'est ça, c'est la France qui a fait un effort financier pour soutenir un peu cette association, pour faire les recherches plus approfondies au niveau même de sous-marine, hein, je veux dire. Hein. Mais je crois que les dernières informations, effectivement, datent de 2009-2010.
C'est octobre 2010. Il y a un homme qui s'appelle Bernard Decré. C'est un Français qui a retrouvé aux archives nationales américaines un télégramme d'un garde-côte qui annonçait la découverte le 17 août 1927. Quelques mois après la disparition des deux aviateurs, on avait découvert une paire d'ailes blanches qui aurait pu provenir, je cite, des aviateurs français. Ça a réanimé le désir de plusieurs de savoir ce qui s'est passé. Au cours des deux dernières années, à tous les cinq ou six mois, il y a quelque chose de nouveau, il y a un témoignage de nouveau qui ressurgit de la mer. Toutes ces années plus tard, alors que j'imagine qu'il y a très peu de gens qui ont vécu à ce moment-là, qui pourraient en témoigner personnellement. Merci beaucoup de nous avoir apporté ce brin d'histoire et puis ce mystère qui plane encore sur la disparition de Charles Nongesser et François Colly.
C'est moi qui vous remercie.
Alors, c'était M. Yannick Morel, qui est opticien en France.
Balado, Radio-Canada International, rcinet.ca.